Et nous débutons par le journal de Catherine Dutu, bien sûr. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Un système de troc, c'est ce que les Européens veulent instaurer avec l'Iran pour continuer à faire des affaires tout en échappant aux sanctions américaines. Une décision camouflée annoncée hier par la chef de la diplomatie européenne alors que Donald Trump doit s'exprimer à l'Assemblée générale des Nations Unies pour mobiliser d'autres nations contre Téhéran. PMA, GPA, euthanasie, le comité d'éthique rend ce matin un avis très attendu sur les grands thèmes de la prochaine loi de bioéthique dont le plus polémique est l'extension de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes homosexuelles et aux femmes seules.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, égalité des sexes, que pourrait changer l'allongement du congé paternité? On posera la question à Hélène Périvier qui est économiste à l'OFCE.
Près d'une heure de discussion, une poignée de main et même deux devant les caméras, loin des effusions des premières rencontres, Emmanuel Macron et Donald Trump se sont entretenus hier soir à New York en marge de l'Assemblée nationale des Nations Unies. Pour l'entourage du président français, il y a des divergences de vues entre Washington et Paris, sur l'Iran notamment, et l'on va y revenir. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur engagement par ailleurs à se coordonner étroitement sur les grands dossiers entre accords et désaccords, rencontre suivie à New York par Grégory.
Il ne lui donne plus du Emmanuel comme en avril à la Maison Blanche, mais se dit très heureux d'accueillir son ami le président Macron. Donald Trump est souriant. Nous avons de très bonnes expériences ensemble, parfois un peu moins bonnes, mais bonnes, à 99%, dit le président américain. L'entretien dure un peu moins d'une heure avec de nombreux sujets abordés, l'Iran, la Syrie, les relations commerciales entre Europe et États-Unis ou encore le Brexit sur le dossier du nucléaire iranien, un objectif commun même si les stratégies sont différentes, souffle un conseiller de l'Élysée. Nous sommes là pour obtenir des résultats, dit le président français. Les deux hommes se succéderont tout à l'heure à la tribune des Nations Unies, se retrouveront demain au Conseil de sécurité, puis le 11 novembre à Paris pour le centenaire de l'armistice. Ce dont Trump se réjouit, lui qui a des étoiles dans les yeux quand il parle encore de sa première visite à Paris en tant que 45e président des États-Unis et de ce fameux dîner à la Tour Eiffel. Une de mes plus belles soirées, un grand honneur. Merci beaucoup.
Donald Trump qui doit prendre la parole aujourd'hui au siège de l'ONU à New York avec l'intention affichée de dénoncer l'Iran comme responsable de tous les maux du Moyen-Orient. Le président iranien Hassan Rouhani devrait dans la foulée se défendre avec virulence contre le président des États-Unis. Et en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, l'Union européenne s'affaire, elle, pour pouvoir continuer à commercer avec l'Iran sans tomber sous le coup des sanctions américaines. Hier soir, à l'issue d'une réunion avec les représentants des 6 pays encore membres de l'accord sur le nucléaire iranien, France, Grande-Bretagne, Chine, Russie, Allemagne et Iran, la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a annoncé la création d'une entité spécifique pour faciliter les transactions financières avec Téhéran. Pour comprendre comment les 28 pourraient contourner les sanctions américaines, direction Bruxelles avec vous, Quentin Dickinson, bonjour.
Bonjour Catherine, bonjour à tous.
Quentin, spécialiste des questions européennes, expliquez-nous comment fonctionnerait concrètement ce circuit commercial alternatif, une sorte de troc pour les 28 qui permettrait aussi à l'Iran de continuer à exporter du pétrole.
Eh bien d'abord un mot sur ce qu'il s'agit de contourner. Les États-Unis étendent leurs sanctions contre l'Iran à toute entreprise étrangère, y compris de pays alliés, au moyen de l'arme monétaire. En clair, si vous voulez utiliser le dollar américain pour vos transactions avec l'Iran, vous tomberez sous le coup de ces sanctions qui, notamment, vous excluront de tout commerce avec une entreprise américaine ou que ce soit dans le monde. C'est d'autant plus contraignant que les ventes de produits pétroliers sont cotées en dollars et que le pétrole constitue l'unique article d'exportation de l'Iran. Il s'agit donc d'éviter tout flux financier entre l'Iran et des entreprises européennes. Pour ce faire, la Commission européenne a inventé un système centralisé de troc géré par une espèce de chambre de compensation. Prenons le cas d'une entreprise européenne qui passe un contrat avec une entreprise iranienne pour la fourniture, par exemple, de biens d'équipement ou de produits alimentaires. La commande est honorée et prend sans obstacle le chemin de Téhéran. Mais parallèlement, une entreprise d'État iranienne livre alors une quantité de pétrole approximativement équivalente en valeur à une entreprise pétrolière en Europe. Et c'est celle-ci qui paiera en euros le montant perçu à la première entreprise européenne par le truchement de la chambre de compensation qui en ajustera plus précisément la contre-valeur. Toute la question maintenant, c'est de savoir quelles entreprises européennes auront suffisamment de confiance dans ce système pour se jeter à l'eau parmi les premiers. Mais l'intérêt que suscite l'initiative européenne ailleurs dans le monde, en particulier en Extrême-Orient, pourrait bien en garantir la force et le succès.
Quentin Dickinson, merci pour ces explications en direct de Bruxelles ce matin pour France Culture. Multilatéralisme contre repli protectionniste des États-Unis, il en est également question ce matin en Chine. Pékin juge impossible de poursuivre les négociations commerciales avec Washington en ayant le couteau sous la gorge. Après l'entrée en vigueur hier de nouveaux tarifs douaniers américains sur 200 milliards de produits chinois, Pékin a répliqué avec des surtaxes, cette fois sur 60 milliards d'importations américaines.
7h05 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu dans la foulée du projet de loi de finances, la présentation ce matin du budget de la Sécu.
Le PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, devrait intégrer les annonces d'Emmanuel Macron la semaine dernière pour le plan santé, avec une hausse des dépenses de l'assurance maladie de 2,3 à 2,5% l'an prochain. Mais le sujet qui fait déjà grincer des dents, c'est celui des retraites et de certains minima sociaux désindexés de l'inflation à partir de l'an prochain. Revalorisation moindre que la hausse du coût de la vie. Pour les syndicats et les associations de retraités notamment, l'équation se résume donc à une perte de pouvoir d'achat à leur choix.
Les APL, les allocations familiales et les retraites ne seront plus indexées sur l'inflation, qu'on estime à 1,5% sur l'année, mais seulement revalorisées à hauteur de 0,3%, et cela pour 2019 et 2020. Des retraités qui avaient déjà dû avaler la pilule de l'augmentation de la CSG dans le PLFSS précédent. Certes, ceux dont les revenus dépassent très légèrement les seuils se verront exonérés de hausse, soit 300 000 foyers fiscaux, mais c'est bien sur cette population, les retraités, que le gouvernement compte pour maîtriser le déficit public pour une économie chiffrée à 3 milliards d'euros par an. Cette sous-indexation aura un effet négatif immédiat sur le pouvoir d'achat des retraités. Ce qu'on sait moins, c'est qu'elle aura aussi un effet à plus long terme et sans doute plus minime sur les futures retraites des actifs d'aujourd'hui. Car ces retraites futures sont calculées en fonction des revalorisations qui ont lieu chaque année pour les retraites actuelles. Moindre est la revalorisation, moindre sera la pension de retraite future.
Mais serait-il possible, Anne-Laure, de faire évoluer le système ?
Il faudrait modifier le code de la sécurité sociale et ça n'est pour l'instant pas à l'ordre du jour. Cette économie est proposée par le gouvernement alors que les comptes sociaux sont revenus dans le vert. Pour résumer, la sécurité sociale a résorbé son déficit. Alors pourquoi continuer de lui demander de faire des économies? Selon certains analystes, c'est une façon de préparer le terrain pour transférer les futurs excédents de la sécurité sociale vers le budget de l'État et de continuer un mouvement qui a déjà commencé, celui de l'universalisation de la protection sociale. En bref, 1 euro cotisé ne correspondra plus forcément à 1 euro perçu, mais l'État va s'occuper de récupérer puis de redistribuer l'argent.
Le Comité national consultatif d'éthique rend aujourd'hui son avis en vue de la révision de la future loi de bioéthique après des états généraux qui se sont déroulés pendant plusieurs mois partout en France, abordant notamment la question de la fin de vie, des neurosciences et des dons d'organes. Faut-il légaliser la PMA, la procréation médicalement assistée, pour les femmes seules ou pour les femmes homosexuelles en couple? Oui, a déjà répondu l'an dernier le Comité consultatif national d'éthique. Inacceptable pour la présidente de la Manif pour tous, Ludovine de la Rochère, au micro d'Antoine Marette.
Il est évident qu'on est à l'opposé d'un consensus pour avancer vers la PMA sans père. Et Emmanuel Macron, chaque fois qu'il a évoqué la question de la PMA, de manière systématique, a toujours dit qu'il s'exprimait à titre personnel et qu'il avancerait vers la légalisation de la PMA si les débats étaient favorables. Ce sont ces termes précis. Ils ne sont pas favorables. Et donc, je pense véritablement que si Emmanuel Macron tient ses engagements, eh bien, il ne peut pas avancer sur ce sujet-là. Dans ce contexte, pour ne pas diviser inutilement les Français, ce débat doit être reporté par Emmanuel Macron et par le gouvernement.
Mais pour l'avocate Laurence Roch, qui a défendu de nombreux couples dans des affaires de filiation, la société française a déjà beaucoup évolué sur la question de la PMA.
La fécondation in vitro est rentrée dans les mœurs depuis fort longtemps et je pense même qu'aujourd'hui on ne pose plus de difficultés à dire aux enfants qu'ils sont nés de fécondation in vitro. Et puis par ailleurs, je pense que la société a aussi évolué sur l'homosexualité grâce aussi au mariage pour tous, il faut le dire. Beaucoup de femmes sont en plus célibataires, De plus en plus de femmes enfantent maintenant tardivement et je pense que donc dans ces conditions-là, la société est capable d'entendre qu'on peut élever désormais des enfants en étant femme célibataire ou en étant deux femmes.
Maître Laurence Roch, interrogé par Tara Schlegel. Un ancien Premier ministre français candidat à la mairie de Barcelone, Manuel Valls, devrait officialiser ses intentions aujourd'hui, prêt à tenter à 56 ans l'aventure risquée d'une nouvelle vie en Espagne après avoir lourdement chuté en France. C'est ce que dénoncent ses opposants. Une ultime trahison, celle des électeurs de l'Essonne qui l'ont élu d'un cheveu député en juin 2017. Le 100e vol de la fusée Ariane, elle doit s'élancer en fin d'après-midi du pas de tir de Kourou en Guyane. Le lanceur va placer pour la 100e fois une fusée Ariane 5 avec pour mission de mettre sur orbite deux satellites de télécommunications pour trois opérateurs. Mais les jours d'Ariane 5 sont comptés, c'est Ariane 6 qui se profile à l'horizon des années 2020 alors que les concurrents redoublent d'ambition, Jean-Marc Chardon.
Encore une quinzaine de lancements et Ariane 5 devrait céder progressivement le pas de tir à une fusée un peu plus puissante, Ariane 6, mais meilleur marché. Elle terminera sa course après avoir embarqué un nombre record de satellites, plus d'une centaine, et avoir enchaîné des lancements emblématiques. Mission de ravitaillement de la station spatiale internationale, déploiement de Galiléo, mais aussi l'envoi de la sonde Rosetta, celle qui aura mis 10 ans à atteindre puis escorter la comète Chury. Un succès pour les États européens qui coopèrent à la politique spatiale dans le cadre de l'Union. Non sans friction d'ailleurs entre les 8 États concernés, notamment sur le programme Ariane 6, où les enjeux se concentrent autour de la France, l'Italie et l'Allemagne, les principaux financeurs et contributeurs. Entre Allemands et Italiens, autant dire qu'il a fallu surmonter quelques différends, il leur fallait se partager des chantiers de fabrication spécifiques. Les Européens qui sont pourtant bien conscients de la nécessité qu'ils ont de rester groupés, c'est que la concurrence continue de souffler, russe et américaine, avec SpaceX, mais aussi chinoise et japonaise. Bataille qui vous rombie d'autant plus fort qu'avec Donald Trump, les États-Unis font maintenant de l'espace une priorité politique où l'investissement public vient en appui à l'initiative privée. Dans une Europe au budget limité, on a bien compris qu'il ne fallait pas relâcher la tension sous peine de perdre son élan.
L'Aquarius fait cap sur Marseille. Le bateau affrété par l'ONG SOS Méditerranée demande à la France l'autorisation de débarquer les 58 migrants qui sont actuellement à son bord. On y revient dans le journal de 7h30. Le temps de ce mardi 25 septembre ensoleillé mais frais. Les températures sont comprises ce matin entre 1 et 8 degrés dans la moitié nord de l'Hexagone, 6 à 10 en général au sud, jusqu'à 21 dans le sud-est. Guillaume Erner.
Merci Catherine Dutu.